un livre, un débat. Le point de vue d'un auteur qui nourrit la polémique.
Reda Benkirane est marocain mais vit en Suisse, sociologue mais aussi poète, journaliste à 16 heures mais aussi consultant auprès d'organisations internationales à Genève. Il a vécu en Algérie, en Égypte, au Liban, en France, bref, c'est un méditerranéen, observateur du mouvement social et amoureux des mots. À tous ces titres, il signe un ouvrage qu'on qualifiera d'essai mais qui est aussi récit personnel, poème parfois et promenade intellectuelle et sociologique sur la culture arabe dans le monde d'aujourd'hui. Son titre, Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine, paraît aux éditions du Cerf, avec une préface du grand poète libanais de langue française Salah Stettier, qui salue ce texte multiforme comme une arabesque décrivant les contorsions de l'islamité et de l'arabité contemporaine. Reda Benkirane nous en explique d'abord l'idée de départ.
Témoigner à titre de citoyen, du monde, mais aussi en tant que maghrébin, en tant qu'arabe, en tant que musulman, face à cette prédominance dans l'actualité du monde islamique, à la perception politique, à sa représentation politique. Et l'idée était de témoigner à travers aussi un travail sociologique, mais aussi en donnant la parole à une quantité d'acteurs, de protagonistes qui n'ont pas toujours accès à l'écriture ou disons à la communication de masse. Et donc ce travail participe de ces deux aspects, donc un regard sociologique qui essaye d'être critique, autocritique. Il y a un exercice de décentration. J'essaye d'avoir le regard de l'intérieur en tant que Marocain, en tant que Maghrébin, en tant qu'Arabe, en tant que musulman. Mais j'essaye aussi d'avoir un regard de l'extérieur en tant aussi qu'occidental, en tant que citoyen du monde. Et aussi en essayant de porter une attention à ces notions d'islamité et arabité contemporaine qui n'émergent plus d'un centre de capitale prestigieuse civilisationnelle, mais des marges, d'une urbanisation massive qui est en cours. Et j'ai été très frappé de voir que, au sein d'une certaine jeunesse marginalisée, certaines représentations culturelles sont en train de devenir dominantes, c'est-à-dire depuis la marge, les questions les plus importantes émergent. Et il y a une marginalisation économique qu'on peut retrouver aussi, pas simplement en Afrique du Nord, mais aussi en Europe. Mais il y a aussi une domination culturelle. Je suis très frappé de voir que la jeunesse des banlieues, que ce soit au Maghreb ou bien en Europe, prédomine culturellement au niveau du langage, au niveau du sport, au niveau de la musique, au niveau des arts. C'est très amusant, je suis à Genève, de voir que les jeunes suisses romandes parlent avec l'accent des jeunes des banlieues françaises. C'est un phénomène de mode culturel. Donc il y a un aspect de marginalisation économique d'une part, mais aussi de domination culturelle. Je trouve ce phénomène très intéressant à observer.
Alors vous illustrez déjà par votre première réponse ce qui fait vraiment l'intérêt de votre livre et que vous essayez donc d'expliquer, c'est à la fois le mélange et la complexité. Vous embrassez du regard des choses qu'habituellement on traite de manière très différente. Donc il y a à la fois des témoignages personnels, des pages très poétique dans votre texte et en même temps les résultats de vos travaux de sociologie. Vous mélangez tout ça au service de la complexité, mais comment faites-vous pour désigner précisément votre objectif, le public à qui vous vous adressez?
Le public auquel je m'adresse est ce public qui ne se satisfait pas du regard réductionniste sur l'islam et le monde arabe. Et cela touche non seulement des gens qui sont interpellés par la religion en tant que phénomène spirituel, mais même des gens qui sont totalement laïcs dans le monde arabe. Il y a vraiment un agacement à se voir perçu à travers les médias occidentaux, à travers un regard très réducteur, à travers aussi une floraison, une génération de spécialistes de l'islam. Alors je vous dis tout de suite, je ne suis pas spécialiste de l'islam, et c'est quelque chose que je revendique très fièrement, parce que je constate qu'il y a énormément de parasitage autour de l'islam, et beaucoup de spécialistes participent à ce parasitage en série, et en donnant une vision mutilée de la réalité, une vision qui s'attache à décrire le terrorisme, la violence, le politique, je pense refléter une grande partie de l'opinion publique dans le monde arabe. Je refuse cette réduction du monde arabe, de l'islam en tant que culture, civilisation, à juste un phénomène politique. Et donc, j'ai volontairement fait le choix de restituer à travers la poésie, qui joue un rôle très important dans la culture arabo-musulmane, à travers donner à voir une certaine sensualité, un goût pour la poésie, un goût pour la philosophie, un goût pour les humanités, une chaleur humaine. Essayer de vraiment faire quelque chose qui restitue une totalité. Et j'aurais pu aussi verser dans peut-être un roman, mais j'ai voulu faire ce mélange entre essai sociologique et sociologie poétique en lieu et place d'une sociologie politique que je trouve extrêmement réductrice s'agissant de l'islam et du monde arabe.
Donc la forme de votre texte reflète qui vous êtes, comme tout citoyen du monde d'ailleurs, multiple. Vous êtes encore jeune, vous êtes musulman, vous êtes arabe, d'où le titre du livre, Jeunesse, Islamité et Arabité Contemporaine. Vous êtes sociologue, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes spécialiste des questions de l'information, consultant pour plusieurs organisations internationales. Et donc vous êtes multicarte en quelque sorte, et votre texte est multiforme, ce qui semble logique. Mais en même temps, il faut se confronter à un réel qui souvent est douloureux. D'où l'intérêt de questionner le Maghreb, puisque vous êtes maghrébin, le Maghreb dans son histoire, dans son devenir, et vous évoquez toutes les questions douloureuses, politiques, économiques, culturelles, liées à la mondialisation, les immigrations clandestines, l'héritage colonial. Mais finalement, ce qui domine quand même dans votre livre et dans votre regard sur le monde, c'est finalement la poésie. Et c'est ce qui vous mène à terminer votre récit enquête, en quelque sorte, par l'évocation de Ibn Arabi. Par ailleurs, votre livre est préfacé par le poète libanais Salah Stettié. Vous pouvez nous en parler de ces deux références, celle qui ouvre votre livre et celle qui la termine?
Salah Stettié, pour moi, est un exemple de personne qui est à la fois acteur dans la vie sociale et politique du monde arabe et aussi touche énormément de gens par la qualité de son travail de poète et la qualité de son écriture en langue française. C'était peut-être la seule personne à laquelle j'aurais pensé pour la préface d'un tel livre. Je m'inscris dans cette démarche. Et s'agissant de l'islam et du monde arabe, j'ai travaillé pour d'autres sujets, je ne verse pas dans une approche politique. Encore une fois, c'est parce qu'il y a eu un trop-plein de regards politiques, parce que dans une perspective utilitariste, pour ne pas dire militariste, pour ne pas dire un savoir qui verse dans le renseignement politique, c'est pour faire contrepoids que je pense qu'il est important de mobiliser les richesses à la fois civilisationnelles, philosophiques, mystiques de la culture arabo-islamique. Et Salah Stettié est l'exemple même du travail qu'il faudrait faire. Il y a eu aussi, de la part des Occidentaux, des exemples aussi extrêmement positifs. Je fais une critique des spécialistes contemporains de l'islam qui, au-delà de leur domaine de spécialité, la science politique, ne sont pas aptes à rendre compte de sociétés contemporaines, arabes et musulmanes, extrêmement complexes. Mais dans le passé, nous avons aussi des gens comme Jacques Berck, qui vraiment a su passer de l'autre côté du miroir et qui a fait une sociologie extrêmement chaleureuse et extrêmement profonde de l'islam et du monde arabe. Et lui aussi avait une approche assez littéraire, assez poétique. Donc, si vous voulez, je me revendique bien volontiers de cette tradition-là qui essaie de capter une totalité, je dirais. Et l'approche de la complexité, je dois avouer que ce n'est pas simplement une approche littéraire. Dans les sciences les plus contemporaines, la complexité est le nouveau paradigme. Nous avons changé de monde. Le monde, c'est un lieu commun de dire qu'il est de plus en plus turbulent, chaotique, incontrôlé, imprédictible. Il y a des sciences, les sciences contemporaines sont en train de fournir des outils épistémologiques pour apprendre à appréhender cette nature chaotique, incontrôlable, imprédictible. Nous avons quitté la science du contrôle et de la manipulation pour verser dans une science de la participation, de ce qu'elle observe. Ce changement de paradigme est fondamental, il est en train d'avoir lieu. Simplement, les sciences sociales n'ont pas encore internalisé cette vision du monde. Par ailleurs, je travaille à ce que j'avais fait un premier livre de philosophie des sciences, et l'idée était que certaines notions, comme la notion d'émergence, comme la notion de non-linéarité, comme la notion de chaos, puissent être mieux appréhendées dans les sciences humaines, car après tout, il n'y a pas de plus grande complexité. La complexité culmine chez l'humain et dans les sociétés.
On comprend que elle a une raison d'être par rapport à la culture arabe elle-même, mais vous sublimez en quelque sorte les douleurs et les dangers contemporains par la poésie, par la littérature. Mais pour terminer vers une question un peu plus critique, justement de ce point de vue, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous reproche que dire les choses poétiquement est un euphémisme, est une façon moins dangereuse que de les dire politiquement ?
J'ai décliné un certain nombre d'idées présentes dans mon livre à travers des articles. J'ai proposé par exemple sur la question du voile en France une anthropologie du voile où je montrais que contrairement à ce que pensaient beaucoup de gens, notamment de la commission Stasi chargée d'étudier cette question du voile et de légiférer sur la raison d'être d'une loi interdisant ce voile, j'avais montré que finalement cette question du voile par exemple, au lieu de voiler beaucoup de choses, dévoile beaucoup sur l'anthropologie des Français de souche. Et j'avais montré le voile en France révélait un problème entre l'inclination profonde de l'universalisme français et la tentation différentialiste. S'agissant de l'islam politique, je suis de ceux qui pensent que le radicalisme s'exacerbe dans des régimes autoritaires, mais qu'il se modère dans des régimes politiques démocratiques et ouverts. Je pense que l'expérience en Algérie, qui a été interrompu par un processus électoral, nous montre que finalement la victoire du fils en décembre 1991 pouvait donner lieu à ce que le sociologue Lahouari Hadi avait appelé une régression féconde, c'est-à-dire peut-être régression sur le plan de certaines idées, mais encore une fois, ce n'est pas les idées qui sont les plus importantes, c'est la réalité sociologique, mais que à travers un processus démocratique, il y avait un enseignement positif. Et je pense que ce qui se passe au Maroc, mais aussi actuellement en Algérie, l'expérience turque, l'expérience malaisienne, l'expérience iranienne, nous montre que l'islamisme aussi peut se modérer et peut aboutir à une sortie de la religion. C'est-à-dire, il y a clairement dans la volonté des masses qui sont tentées par l'approche islamique, une volonté de désacralisation du savoir et du pouvoir. Donc, dans des régimes pluralistes, je pense que ces mouvements extrémistes peuvent se modérer. Rappelez-vous l'histoire du communisme. Aujourd'hui, dans les chancelleries occidentales, il y a beaucoup de ministres qui, il y a 20 ans ou 30 ans, prenaient la lutte armée contre l'ordre mondial. Ils se sont modérés parce qu'ils ont été impliqués dans la construction de leur société civile, dans la participation à la citoyenneté. Je pense que c'est ça. Il faut réunir, il faut relier plutôt que polariser les différences. Et je pense que tout ce qui verse vers une approche de dialogue, en respectant la loi, en respectant la diversité culturelle, les principes d'alternance de pouvoir, tout ce qui fonde une société pluraliste, je pense que c'est qu'il faut jouer le jeu. Je suis positif pour le Maghreb parce que il y a aussi un changement démographique. Le Maghreb est maintenant en train de maîtriser sa démographie. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des lois qui permettent une promotion du statut de la femme. Tout ça est rendu possible parce que il y a aussi des changements démographiques importants. Le recul de l'âge au mariage pour les femmes, la baisse spectaculaire du taux de fertilité durant les 30 dernières années. C'est ça la véritable modernisation. Et tout cela se traduit ensuite par des discours, par des revendications culturelles. Donc, modérément pessimiste sur le court terme, mais résolument optimiste à long terme.
Reda Benkiran, auteur de Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine aux éditions du CERF, et dont on peut lire aussi La complexité, vertige et promesse, 18 histoires de science, paru aux éditions Le Pommier en 2002, et enfin l'avant-propos et la postface de Quel islam de Jacques Berck aux éditions Sinbad Actes Sud, paru en 2003.